Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on va s'adresser aujourd'hui aux futurs et jeunes parents avec une invitée de marque. Nous recevrons en studio Sonia Krief. Elle est auxiliaire de puériculture depuis 40 ans. Elle est connue et reconnue notamment pour son bain de Sonia, un thalasso bain pour bébé dont vous avez peut-être vu des vidéos sur internet. Un moment de douceur bouleversant pour des bébés dès les premiers jours de vie, dont elle nous expliquera ici bien sûr les principes, mais elle nous parlera aussi de son dernier livre, J'accueille mon bébé, paru chez Albin Michel, avec tous ses meilleurs conseils pour mieux communiquer avec son nouveau-né, beaucoup de bienveillance à venir. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed reviendra sur l'arrêt cardiaque. On peut tous en être témoin un jour, même en pleine rue. Alors comment réagir? Quels sont les gestes de premier secours à connaître? Il fera le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme qui se pose pas mal de questions après une expérience sexuelle un peu déroutante.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Jeanne, on l'écoute.
Bonjour Jimmy, Mélanie, j'ai une petite question. Donc voilà, dès que je mange du fromage ou de la vache, surtout le soir, j'ai des problèmes de digestion. Je me sens ballonnée et j'ai des gaz et ça me dérange vraiment. Ça ne le fait pas du tout avec les fromages au lait de chèvre. Est-ce que je peux être allergique au lait de vache comme ça, d'un coup, à l'âge adulte?
Alors, pour vous répondre, bien que Jimmy soit un grand spécialiste du fromage...
Et vous, une patiente experte des gaz, voilà, on aurait pu faire un tuyau.
Eh ben, on a quand même décidé de se tourner vers un autre spécialiste aujourd'hui. Là, plutôt des problèmes de digestion. On écoute les explications du professeur Perrin Biroulet. Il est professeur de gastro-entérologie au CHRU de Nancy.
D'après moi, ce n'est pas une allergie aux protéines du lait de vache. C'est plutôt une intolérance au lactose, qui est un sucre contenu notamment dans les produits laitiers. Et ce n'est pas une vraie allergie. L'allergie aux protéines du lait de vache, c'est plutôt quelque chose qui apparaît chez le nourrisson. Donc pour moi, c'est une intolérance au lactose liée à un fromage que vous avez consommé qui est riche en lactose. Et pourquoi vous n'avez pas ces symptômes avec l'autre fromage? C'est probablement parce qu'il contient beaucoup moins de ce lactose. Alors pour vous en sortir, il faut utiliser des laits sans lactose ou alors se focaliser sur les fromages pauvre en lactose, comme celui que vous avez trouvé. Le diagnostic, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On peut faire des tests un peu compliqués, comme des tests où on va regarder ce qui se passe dans la respiration. Mais c'est plutôt un diagnostic quand on exclut l'aliment. Tout ce qui est lactose, on se sent mieux. Quand on le réintroduit, on ne se sent pas bien. Donc voilà mes consignes en quelques secondes.
Voilà, c'était le docteur Perrin Biroulet au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question. Elle est pour vous, celle-ci. C'est la question de Léonore qui nous appelle de Paris.
Bonjour Jimmy, Mélanie. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai un grain de beauté sur le bras qui me paraît un petit peu bizarre. Il est très foncé, plus foncé que mes autres grains de beauté. Et il n'est pas vraiment rond. Il a une forme qui n'est pas très unie. Donc est-ce que je devrais m'inquiéter? Est-ce qu'il faut que j'aille consulter quelqu'un? Voilà, merci beaucoup, bonne journée.
Alors Jimmy, un grain de beauté, bon c'est un grain de beauté, mais c'est quoi un grain de beauté qui serait peut-être un peu douteux?
Tout grain de beauté qui viendrait à être douloureux, à démanger, à changer de couleur, à suinter, à saigner, à changer d'aspect, à évoluer, doit évidemment faire consulter le dermatologue à la recherche tout simplement d'un cancer de la peau, un mélanome ou un carcinome.
D'accord, alors grain de beauté, ou d'ailleurs n'importe quel autre truc sur la peau qui semble anormal, je crois qu'il y a la règle du A, B, C, D, E pour savoir justement s'il faut consulter ou pas, c'est quoi cette règle?
Oui, mais dans le doute, consulter, quelle que soit la règle, parce que je ne l'aime pas beaucoup, elle est plutôt destinée à mon sens aux médecins. Alors A, c'est pour l'asymétrie, si la moitié du grain de beauté ne colle pas avec l'autre, eh bien il faut consulter. B, si jamais le grain de beauté a des bords irréguliers, mal délimités, il faut consulter. C, c'est pour la couleur inhomogène. Si elle change, elle varie d'une zone à l'autre, consultez. Le D, c'est pour le diamètre de plus de 6 mm. Il faut consulter. Et E, c'est l'évolution dans le temps. Dans ces cas-là, direction le dermatologue. Et même sans ces critères...
Ah ben c'est D, E, consultez. Quoi, de
exactement.
Toute façon,
hein, allez,
ça, tout ce qui vous paraît bizarre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il faudrait aller se faire voir par un dermatologue au moins une fois par an. Parce qu'il y a des zones du corps qu'on peut pas s'auto-contrôler comme ça régulièrement. Un cancer de la peau, ça peut se nicher n'importe où. Hein.
Exactement, ça peut toucher tout le corps. Alors ça peut être dans le dos, donc ça vous ne le voyez pas spécialement. Alors votre partenaire peut aider à les checker.
Bon.
Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez en avoir sur le torse, sur le ventre, sur les mains, mais aussi dans certains plis, entre les fesses, derrière les oreilles, au niveau du cuir chevelu.
Un bon dermato, c'est un dermato qui vous déshabille entièrement.
Exactement,
hein, c'est ça.
Qui vous met tout nu. Et si on s'intéresse au mélanome, eh bien, chaque heure, il y a un patient qui décède aux États-Unis d'un mélanome. Donc c'est une maladie qui est potentiellement grave, mais qu'on peut éviter justement avec le dépistage.
Alors encore une fois, vous disiez donc il faut s'inspecter tout le corps, aller voir un dermato régulièrement, surtout si on est à risque, hein, pour ceux qui ont la peau claire, des taches de rousseur, les cheveux roux, etc. Mais même les autres, parce que plus c'est pris tôt, on est d'accord, comme dans beaucoup d'autres cancers, plus on a de chances de s'en sortir sans problème.
Un diagnostic précoce permet justement de traiter correctement, d'améliorer la survie, et que vous ayez simplement de la chirurgie ou même de la chimiothérapie par la suite, eh bien on sait que plus tôt on va traiter la lésion et moins elle aura le temps d'évoluer. Et c'est valable quasiment pour toutes les maladies et tous les cancers. Donc c'est pour ça qu'on saoule les gens d'aller voir le dermatologue. C'est pas qu'on a une forme de lobby pour les dermatos, ils ont suffisamment de travail, ils ne connaîtront jamais le chômage, mais malgré tout, il va faire beau. On va profiter des terrasses bientôt, donc allez voir le dermato.
C'est ce que j'allais vous dire, là, mois de mai, il va y avoir, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais il va y avoir du beau temps à un moment donné, et des rayons de soleil, on est d'accord, le soleil du mois de mai, pour les gens fragiles surtout, on n'oublie pas les bébés, les enfants aussi, il peut être dangereux, hein, on est d'accord, surtout
oui,
chez les petits.
Oui, parce que les ultraviolets vont abîmer l'ADN de nos cellules cutanées, sauf que nos cellules, elles vont garder en mémoire cette agression, et on sait que 5 coups de soleil assez sérieux entre l'âge de 15 et 20 ans, vous augmente le risque de mélanome de 80%, et donc ah ouais. Évidemment qu'il y a un lien formel entre les coups de soleil qu'on a dans l'enfance et d'éventuels cancers cutanés. Protégez-vous, mettez de la crème et n'exposez pas les enfants, en particulier les plus fragiles.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, un vent de douceur, de bienveillance va souffler dans ce studio. Sonia Krief, la créatrice du bain de Sonia. Je suis sûre que vous avez déjà vu une de ses vidéos sur Internet. Vous êtes plusieurs millions à l'avoir fait, donc j'imagine qu'il y en a. Elle arrive dans ce studio avec ses meilleurs conseils pour les bébés, les mamans et même les papas. On va voir de la douceur pour tout le monde. C'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous Sonia Krief, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes auxiliaire de puériculture depuis 40 ans. Vous êtes celle qui murmure à l'oreille des bébés. Mmh. Alors je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui car je dois le dire, hein, vous m'avez déjà bouleversée à plusieurs reprises depuis que je suis maman. Comme beaucoup de gens, comme des millions de gens, j'ai vu vos vidéos, vos bains de Sonia qui sont vraiment des moments magiques. Alors justement, juste pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas, expliquez-nous, c'est quoi ce moment finalement hors du temps que vous avez inventé ?
C'est le bain de Sonia, c'est un moment suspendu. C'est le temps qui s'arrête, c'est ralentir de notre rythme effréné, c'est se mettre sur pause et revoir les choses différemment, surtout quand la naissance a été compliquée, que ce soit pour le bébé ou pour la maman. De toute façon, on peut rarement dissocier les deux. Mais c'est comme reprendre un petit peu les choses plus tranquillement et arriver à cette naissance plus sereinement et moins dans l'urgence.
Alors, on y reviendra bien sûr à ce bain, mais si on vous invitait aujourd'hui, c'est parce que vous avez publié ce livre, J'accueille mon bébé, ouais, chez Albin Michel, un bouquin pour éveiller les jeunes parents à la dimension psycho-affective des premières semaines. C'est vraiment là que tout se joue, le lien fondateur avec son enfant, c'est dans les premiers jours, les premières semaines.
C'est déjà in utero. C'est déjà se connecter à son bébé lorsqu'il est en train de grandir dans le ventre de la maman. C'est, on sait qu'il partage les émotions, il partage les ambiances, il partage tout avec sa maman. Il ne fait qu'un. Donc c'est déjà in utero, c'est faire prendre conscience aux parents que la relation s'installe déjà et que même s'il y a des difficultés, ça se rattrape, c'est pas perdu. Il faut se faire aider, mais bien évidemment... dès qu'on peut se connecter et communiquer avec ce petit être, ce petit bébé en devenir, allons-y.
Alors, la crise du Covid est peut-être en train de se terminer, mais le contexte a été assez difficile. Comment est-ce qu'on peut se connecter, être zen comme vous ? On se rend compte que vous parlez très lentement, c'est apaisant, contrairement
bien,
à nous.
D'ailleurs,
on est beaucoup plus speed. Avec les contraintes de Covid, comment est-ce qu'on fait justement pour ressentir du positif et transmettre cette bienveillance à bébé ?
C'est un tempérament, ça, c'est la confiance, c'est la positive attitude, mais c'est peut-être aussi se recentrer sur soi-même, privilégier des moments où on va être justement en connexion. Ça peut être 10 minutes sur un canapé, c'est pas 24 heures sur 24, hein, y a la vie qui continue et les angoisses et les stress et on ne peut pas passer au travers, mais se dire à ce moment-là, je me centre et je me connecte à mon bébé. Je visualise, j'invite le deuxième parent, le coparent à poser les mains et on y va ensemble. Mais c'est juste ça. On sait que Cette crise a créé des angoisses terribles.
Des accouchements dans des situations parfois compliquées.
Je les entends encore, des accouchements dans des situations terribles, des accompagnements qu'il n'y a pas eu, le papa qui a dû retourner à la maison, la famille qui
des
n'a pas pu être là.
Des conjoints complètement absents à certains moments aussi. Hein, ouais.
Donc, déjà, en temps normal, c'est une période dans laquelle les mamans se sentent assez isolées. Mais alors là, il y a eu un isolement. Ça a été énorme.
Il y avait des contraintes sanitaires, malheureusement.
On ne peut pas y échapper.
C'était normal et on a fait ce qu'on a pu aussi dans le contexte actuel. Il y a une chose dont vous parlez dans le livre qui, pour le coup, Covid ou pas Covid, est possible. Vous incitez sur l'importance pour les mamans de se préparer à la naissance et notamment en bougeant. L'activité physique, elle est très importante. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, contraintes sanitaires ou pas.
Bien évidemment, il faut bouger. On le sait, qu'on soit enceinte ou pas enceinte, homme ou femme, on sait qu'il faut bouger. On sait que ça fait partie de notre santé mentale, psychologique, physique. Donc, bien évidemment, il faut bouger, marcher, adapter notre activité à notre état du moment, bien sûr.
Alors, pour préparer à l'accouchement, on peut proposer parfois aux femmes d'élaborer ce qu'on appelle un projet de naissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Le projet de naissance, c'est un petit peu prendre cet accouchement et cette naissance... Être acteur et ne pas subir. Un moment, s'arrêter, s'intéresser à ce qui est en train de se passer dans notre corps et ce qui va se passer par la suite lorsque ce bébé va naître. Et puis, élaborer par écrit, déjà en discutant avec le deuxième parent, de ce qu'on aimerait de cette naissance. Est-ce qu'on a envie d'une péridurale ? Est-ce qu'on n'en a pas envie ? Est-ce qu'on a envie de musique ? Est-ce qu'on a envie d'accoucher sur le dos ? Est-ce que si on peut éviter une épisio, évitons-la ? Est-ce que si on peut éviter de rompre la poche des os, évitons-la ? Est-ce que j'ai envie qu'on attende quelques minutes avant de couper le cordon de mon bébé ?
Mais ça ne se passera peut-être pas comme ça, si on a fait un projet.
Bien évidemment, on ne s'enferme jamais dans ce projet-là parce qu'on file à la déception si ça ne se passe pas comme ça. On a un projet, on en discute avec sa sage-femme, avec son obstétricien, on dit si tout se passe bien, j'aimerais que... Mais bien évidemment, la priorité, la santé de la maman et du bébé.
Alors, c'est peut-être pas le bon moment, mais est-ce que vous êtes favorable à l'organisation de baby shower, justement ? Est-ce que c'est un moment important ? Ça se fait pas spécialement, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas très développé. Mais est-ce que ça permet de développer un peu de la bienveillance ?
Entre gens vaccinés, par exemple, en ce moment ?
Oui, voilà, pourquoi pas ? C'est un moyen de peut-être de retrouver du monde, bien évidemment.
Du lien avec nos proches, notre entourage.
Du lien, ouais. De faire un peu la fête, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, de retrouver les copines, d'imaginer des petits jeux, de s'offrir des petits cadeaux. Et pourquoi pas garder des numéros, des bonnes copines, si jamais en post-partum, on a besoin de l'aide de l'une ou de l'autre.
Mais oui, parce que s'entourer, c'est ça. On est très isolé quand même quand on a souvent le premier au moins. Mais pas que d'ailleurs. Il y a de la solitude, il y aura des angoisses. Ça, c'est un peu obligé, vous le dites dans le livre. Il faut s'y attendre. Vaut mieux le savoir.
Vaut mieux le savoir. Voilà. Moi, je pense que plus on prépare et moins on est choqué de ce qui nous attend, de ce qui arrive, parce que malgré tout, il va y avoir un tsunami.
Même vous,
émotionnel.
Qui êtes une professionnelle, vous avez eu 4 enfants et vous
êtes. J'ai pleuré.
Voilà, c'est ça, vous dites, ça n'a pas été facile tout le temps.
Mais émotionnellement, physiquement, ça va être un parcours du combattant. Parfois, on tire le numéro gagnant de la loterie et ça ne l'est pas. Mais dans la majorité des cas, quand même, il faut tenir sur la longueur, le sommeil va manquer. Et on a besoin d'aide.
Merci Sonia. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va continuer cet échange avec Sonia Krief, celle qui chuchote à l'oreille des bébés. Et on va passer au grand jour, à la naissance et à ses premiers instants avec son enfant. On parlera notamment des bienfaits du pot à pot. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors en studio, elle est toujours avec nous, c'est vous Sonia Krief, vous êtes auxiliaire de puériculture depuis 40 ans. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre « J'accueille mon bébé » publié chez Albin Michel. Alors on va passer au grand jour, au jour de l'accouchement à présent. On dit que certaines vies se déterminent à la naissance et d'ailleurs dans le livre, moi je suis un peu curieuse, j'ai aimé les anecdotes qui vous concernent aussi. Vous dites que le vôtre, le tout premier jour, il a déterminé finalement ce que vous êtes aujourd'hui.
Oui, exactement. Bien évidemment, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su il y a une dizaine d'années en séance d'hypnose, en réalité. Et, et, Et c'est tant mieux parce que ça a donné du sens à un travail que je fais depuis très longtemps sans vraiment savoir pourquoi je le fais. Et donner du sens à ce qu'on fait, ben c'est extraordinaire parce que je vais encore plus me donner. J'ai la raison, j'ai le pourquoi, je connais la souffrance que peut connaître un bébé à la naissance. Donc, je vais vraiment œuvrer pour que tout le monde prenne conscience que ce moment-là de la naissance, cette ambiance qui va se dégager, le bébé va la ressentir.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement ? Qu'est-ce qui s'est passé, du coup ?
Moi, j'ai ressenti, il faisait très froid et il faisait très sombre et je me suis sentie très seule. Donc voilà, sans m'étaler plus que ça, en tous les cas, c'était quelque chose qui ne m'a pas apaisée et c'était plutôt angoissant. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment faire prendre conscience que ce premier moment, on n'est pas sur nos téléphones, on accueille son bébé. On le regarde dans les yeux, on lui dit à quel point on est heureux de le rencontrer, à quel point on était impatient et on lui fait un grand sourire.
Alors justement, l'accouchement, on se rend compte qu'on n'est pas tout accompagné avec la même bienveillance partout, même si vous dites que la société, malgré tout, est en train de changer.
Oui, oui, on évolue tout doucement. J'ai bien compris que ça ne servait à rien d'essayer de bousculer. Ça n'arrive rien, on va plutôt créer des résistances. Vaut mieux marcher tranquillement et puis que les gens observent et se rendent compte qu'en réalité, oui, en réalité, ça, c'est plutôt mieux que ça. Donc, j'arrête de secouer peut-être un peu violemment les gens et je laisse faire et j'ai l'impression que ça marche bien.
Dans de nombreuses maternités, effectivement, maintenant, c'est quand même des choses plus bienveillantes qui se développent un peu partout en France et les choses évoluent, notamment depuis le rapport Cyrulnik sur les 1000 jours. On sait que cette période des 1000 premiers jours, elle est très importante. Malheureusement, un accouchement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. D'ailleurs, vous dites même que quand ça se passe bien, comme on l'a prévu, bah, parfois, c'est quand même la désillusion.
Ben oui, c'est la désillusion ou pour les parents ou même pour le bébé. Hein. De toute façon, je me place bien plus du côté du bébé, vous l'aurez compris pourquoi. Mais ça reste quand même un bouleversement pour ce petit chat. Il est complètement paumé, d'où l'importance d'aller l'accueillir, les bras grands ouverts et tout près de son corps et attendre pour les photos. Mais bien évidemment, c'est une désillusion parce que... On s'attend pas, on ne sait pas. On a beau nous expliquer, on a beau suivre des cours de préparation, mais de toute façon, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas ce que ça va être, ce que ça va sentir, ce que ça va faire mal et ce que ça va peut-être décevoir.
Et vous faites un petit focus sur ce qu'on appelle le proto-regard, le regard du naissant, du nouveau-né. Alors, un nouveau-né va vite chercher à téter en premier, mais d'abord, c'est les yeux de la maman qui l'intéressent.
Oui, moi je pense que plutôt que de le glisser carrément sur sa peau, posé comme ça, montrons le bébé à la maman et au papa et qu'il y ait cet échange de regards, qu'il y ait ces yeux qui brillent. Ça peut durer 3 secondes, on n'est pas à 3 secondes près et puis après on va le poser sur sa maman. Mais souvent quand on le pose, on a à peine le temps de le voir. Donc on voit juste une joue avec un dessus de crâne, mais montrons le bébé.
Qu'a ce réflexe-là de nous regarder avec ses grands yeux dans les yeux de la maman. Vous avez parlé un petit peu du pot à pot. Ça se pratique de plus en plus aujourd'hui à la naissance quand c'est possible. Et j'ai appris dans votre livre que ça avait été lancé dans une maternité à Bogota en 78 en fait.
Oui, ça a vraiment été lancé pour un petit peu combler le manque de couveuses qu'il y avait dans cette région-là. Il y a eu plein de prématurés et pas suffisamment de couveuses. Et comment on fait quand il faut tenir chaud à un tout petit chou et qu'il n'y a pas suffisamment de couveuses? Eh ben, on a une couveuse maternelle et paternelle. Donc, il suffit de mettre le bébé contre la peau de ses parents parce que de toute façon, dans la couveuse, il va faire 37.
Et
il
va, sur il la va maman, retru- c'est pareil, ou le papa.
Et sans compter tous les bénéfices du pot à pot qu'il n'y a pas dans la couveuse. Donc, on a commencé comme ça un petit peu parce que les couveuses ont fait défaut. Et puis, petit à petit, tout le monde s'y est mis. Et c'est tant mieux parce que ça crée du lien. J'ai un papa qui n'avait encore jamais fait ça. Je suis arrivée à 3 jours avec le bain et le pot à pot. Et quand j'ai mis son bébé en pot à pot, il m'a dit « ça y est, je me sens papa ». Ça veut dire que pendant 3 jours, il ne s'est pas senti papa. Il suffit d'un corps à corps, c'est électrique, c'est un courant électrique le pot à pot, ça va toucher en plein cœur.
Et qu'est-ce qui se passe pour le bébé? Est-ce que ça aurait d'autres vertus? L'OMS recommande aussi la pratique justement pour les nouveau-nés, alors avec les papas, les mamans, peu importe, ou les mamans et les papas. Le bébé aura aussi des défenses immunitaires un peu différentes grâce au peau à peau. Ça l'aiderait à combattre certaines infections?
Bien évidemment, il va prendre des bonnes bactéries de sa maman, hein, déjà en naissant par voie basse. Déjà, il s'en prend et puis il va fabriquer sa petite flore à lui qui va le protéger, et puis en léchant un petit peu la peau de sa maman, et qui va lui tenir chaud, qui va lui réguler son rythme cardiaque, qui va...
C'est pas juste
dire...
un moment câlin, il y a des bienfaits
mais
médicaux,
non, mais
quoi,
c'est
quasiment.
C'est plus qu'un câlin, c'est un soin. Et on le voit dans les services de prématurés où avant on était un petit peu, il fallait surtout pas les sortir des couveuses. Là, on les sort des couveuses branchées avec tout plein de tuyaux, avec beaucoup de précautions. On va les poser tout petits qu'ils sont sur le corps du papa ou de la maman. Et c'est juste magique. Et ces bébés vont aller bien mieux, plus vite.
Et ça peut se pratiquer longtemps, ça aussi, on le vit, parce qu'on a l'impression que c'est que pour la maternité, mais c'est un bébé avec qui on pratique le peau à peau, même au retour à la maison, c'est un bébé qui pleure moins.
Ça, il faut l'expliquer, parce que souvent, on parle du peau à peau à la naissance, mais on oublie de dire que le peau à peau, c'est aussi longtemps que vous voulez, aussi souvent que vous en avez envie,
contre les coliques ou autre chose,
jusqu'à ce que le bébé n'en veuille plus, ou qu'il dise « j'ai envie d'explorer le monde, là c'est bon », ou que la maman et les parents n'en veuillent plus. Mais ça soulage de tout, il n'y a rien de négatif à faire du peau à peau. Il n'y a pas un seul point négatif à faire du peau à peau. Donc, c'est sans modération.
Allez, on adore ça. Sonia Krièvre, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission dans laquelle on vous dit tout sur les premiers jours avec un bébé. On va vous expliquer comment favoriser ce lien avec son enfant dès les premiers instants. Et bien sûr, on va parler du bain de Sonia, du thalasso bain pour bébé et de ses vertus extraordinaires. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Sonia Krièvre. Je rappelle que vous êtes auxiliaire de puériculture depuis plus de 40 ans. Vous êtes également celle qui murmure à l'oreille des bébés. On dit ça parce que vous avez inventé un bain, un thalasso-bain pour bébé. Ça, c'est les parents qui lui ont donné ce nom, je crois. Dont on peut voir les vidéos bouleversantes sur le web. D'abord, moi, j'ai envie de savoir comment vous est venue l'idée de ce bain. C'est pour ceux qui ont vu les vidéos, après, ils savent à quoi ça ressemble. Mais l'idée, comment vous avez eu cette idée-là?
J'ai assisté à une magnifique naissance physiologique d'un groupe de sages-femmes qui s'appelle le groupe Naissance et qui existe toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette pièce. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu. C'est un accouchement hyper physiologique, tellement respectueux de la femme et du bébé, où la sage-femme est juste là à attendre qu'on ait besoin d'elle, qui n'intervenait pas. Et en sortant de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon petit rôle d'auxiliaire de puériculture, pour qu'il y ait cette continuité-là? Ce bébé est arrivé tellement joliment,
paisible,
mais il faut qu'il ait des soins tellement joliment. Et c'est arrivé tranquillement, j'ai pris mon temps, j'ai testé la petite douchette, et puis à force d'avancer, j'étais en train de me dire, mais en réalité, j'essaye de lui reproposer des sensations sans le savoir, mais c'est de manière intuitive, des sensations qu'il aurait pu connaître dans le ventre de sa maman. Et voilà, et c'est le chemin, voilà, ça a filé tout droit et je m'émerveille tous les jours. Et à chaque rencontre, à chaque bébé, à chaque rencontre de parents, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau bain. C'est jamais deux bains identiques parce que c'est jamais deux bébés identiques, mais... tranquillement, ce bain ressemble un petit peu à ce qu'a pu vivre le bébé dans le ventre. En tous les cas, c'est ce que les mamans me disent quand elles se touchent le ventre pendant que je baigne leur bébé, quand elles ressentent des petits mouvements de pieds, de bras, en me disant oh « bah, c'est ce qu'il a fait, regarde à l'échographie, il avait le bras en l'air comme il l'a là ». Donc c'est en tous les cas leur interprétation de ce bain aussi.
Et justement, désormais avec le bain, on prend un peu plus son temps, on attend avant de donner le premier au bébé. Pourquoi est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce qu'on fait ça désormais?
On a pris conscience en réalité que le bain n'était pas une urgence, qu'il fallait bien évidemment privilégier la rencontre et le lien avec les parents, que le bébé avait en plus sur lui une petite substance toute grasse, blanche, qui s'appelle le vernix, qui est très importante pour la protection du bébé, qui lui tient chaud en plus. Donc, laissons un petit peu la peau de ce bébé absorber cette luxueuse crème. Attendons qu'il de lui-même régule sa température et puis qu'il déclenche aussi l'allaitement quand il y a allaitement. Et puis le bain peut arriver à J2, J3, J8. Il n'y a pas d'urgence à baigner un bébé.
Bon, votre bain, en tout cas, c'est quelque chose de particulier. D'abord, ça, c'est comme une cérémonie. Hein. C'est dès le déshabillage, il y a quelque chose. Comment vous vous y prenez? Expliquez-nous un petit peu.
Mon objectif est de diminuer le plus possible les pleurs du bébé. À chaque fois que j'ai un pleur, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de me dire. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour déclencher un pleur? Est-ce qu'il a eu peur à ce moment-là? Donc, je vais en réalité garder le contact avec le bébé dès le déshabillage. Je vais le déshabiller en lui tenant toujours la main. Et quand je fais pratiquer ça aux parents, ils me disent « mais c'est terrible, il pleure plus quand je le déshabille ». Juste de garder le contact et puis ralentir nos gestes. On va trop vite, ce bébé n'aime pas la rapidité, il aime qu'on aille lentement. Donc on va aller lentement et puis on va l'immerger dans cette eau chaude, dans cette quantité d'eau chaude. Il était recouvert d'eau chaude.
Mais pas tout nu, hein, vous l'enveloppez. Hein. Ces bébés-là, ils sont enveloppés dans des grands langes, hein, c'est ça?
Ben, je vais lui donner un petit peu ces limites qu'il avait dans le ventre de sa maman. Cette poche à mignotis qui avait quand même une poche, un petit voile. À l'intérieur, il y avait tout plein d'eau. Et puis, il y avait du contact, il y avait des bords, il y avait des bercements. Je vais essayer, en tous les cas, de le ramener le plus possible dans ces souvenirs-là. Bah pour lui faire plaisir et égoïstement me faire plaisir aussi.
Et puis après le bain, il y a la sortie du bain et on a tendance à aller un peu trop vite et souvent ça pleure à ce moment-là. Alors est-ce que vous avez des petits conseils justement?
On le sait, les bébés n'aiment pas être sur le dos parce que sur le dos, ils vont écarter grand leurs bras. Ils sont paumés, ils n'ont plus de limite, plus de bord. Donc ce que je conseille aux parents, c'est d'essayer de les retourner un petit peu sur le côté parce qu'en se mettant sur le côté, d'eux-mêmes vont se contenir déjà un bras. Et quand on contient un bras, il n'y a pas ça. C'est les deux en même temps. Donc en réalité, il y a plus ce réflexe de Moreau, là, ces grands bras ouverts. Et ça marche assez bien.
Ça prend chez tous les bébés? Ou si ça ne prend pas, c'est qu'il y a une raison?
Si ça ne prend pas, je vais chercher pourquoi ça ne prend pas. Il y a souvent une raison. Et c'est assez marrant et c'est pour ça que je pense que le bain ramène un petit peu à cette histoire d'in utero. C'est que quand la maman oublie de me raconter quelque chose, le bébé va me le raconter dans le bain. Et je vais accueillir tout ça, je vais tout faire et on va y arriver. Mais lorsque je vais reparler avec la maman, elle va me dire « Ah, mais j'ai oublié de vous raconter ça ». Et là, je me dis « Ouais, en réalité, vous avez oublié, mais lui n'a pas oublié ».
Une fois qu'on rentre à la maison, on peut reproduire ses bains, puisqu'on a tendance à croire que sorti de la maternité, ça y est, on doit laver un bébé comme on lave un enfant qui serait sale. Et donc, on est dans le rush et on n'a plus ce moment de détente et de plaisir.
Il faudrait redéfinir le bain, ne pas penser le bain comme un moment d'hygiène. Bien évidemment, on va le savonner de temps en temps, mais pensons-le comme un vrai moment de partage, comme on partagerait un massage, comme on partagerait un pot à pot. Ralentir le temps et le penser comme un moment d'échange de regards, de communication, de bercement, du temps pour chanter, pour bercer. C'est un vrai moment de partage, le bain. Alors avant, on donnait des bains tous les jours, on mettait peut-être 5 minutes par bain. Disons que là, aujourd'hui, on donne un bain tous les 2 ou 3 jours, additionnant tout ce temps, 5 et 5 et 5, et autorisons-nous 10 minutes ou un quart d'heure, plutôt que 5 minutes où il faut aller vite. Si on n'a pas le temps, repoussons au lendemain. Mais ne faisons pas les choses dans le stress parce que bien évidemment, le bébé va le sentir.
Merci beaucoup Sonia Krief d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir reçu.
Merci.
Pour en savoir plus, je rappelle votre livre « J'accueille mon bébé » publié chez Albin Michel. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Le docteur Jimmy Mohamed va faire un point sur l'arrêt cardiaque. Peut-être un peu brutal comme transition, mais là aussi, notre objectif c'est la vie. Alors on va vous expliquer comment réagir, quels sont les gestes de premier secours à connaître. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les mots du quotidien avec un éclairage sur l'arrêt cardiaque. Alors, c'est pas drôle dit comme ça, mais on peut tous malheureusement en être un jour témoin ou victime malheureusement aussi. Si quelqu'un s'écroule un jour devant vous en pleine rue, à la maison, savez-vous comment réagir? Comment savoir d'ailleurs qu'il s'agit d'un problème cardiaque? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a testé vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Un arrêt cardiaque, je crois que c'est une douleur vive au niveau du bras gauche.
On le repère
faire quand on a mal au cœur.
Peut-être on a des paralysies dans les bras.
Je sais que chez la femme, ils sont un peu différents. Ils sont beaucoup plus variés, beaucoup plus difficiles à repérer parce qu'ils passent presque inaperçus.
Ça peut être provoqué par tout un tas de facteurs. D'abord, un facteur génétique.
Par un stress excessif, une haute tension, un choc émotionnel intense.
La vieillesse, peut-être un effort, trop d'effort.
Alors les premiers gestes en cas d'arrêt cardiaque, c'est appeler les secours, mettre en sécurité la personne.
Si la personne est à un défibrillateur, s'en servir ou sinon faire bouche à bouche ou bien des massages cardiaques.
Ça dépend à partir de combien de temps c'est pris en charge. Plus j'imagine c'est pris en charge tard, plus les séquelles sont importantes, peut-être au niveau du cerveau et choses comme ça.
Jimmy, on va rester calme, mais on va détailler un petit peu cette urgence dont on peut tous être témoin un jour. Quelqu'un s'écroule, déjà, comment on sait que c'est éventuellement un arrêt cardiaque? Parce qu'on a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, de la syncope, c'est pas la même chose. Hein.
Exactement, alors deux éléments très simples. C'est l'inconscience, d'être inconscient et ne plus respirer. Pour savoir si une personne est inconsciente, trois choses. Un, vous essayez de lui parler, elle ne vous répond pas. Deuxième chose, vous lui demandez de serrer la main, elle ne serre pas la main. Troisième chose, elle a les yeux fermés. Ça suffit pour dire qu'elle est inconsciente. Pas la peine d'essayer de bousculer quoi que ce soit, elle est inconsciente.
C'est déjà très bien.
Fin d'histoire. Deuxième chose, elle ne respire pas. Alors comment savoir si quelqu'un respire? Eh bien, vous placez votre joue au niveau de la bouche de la personne. Alors évidemment, vous ne la touchez pas. Et puis, vous allez observer les mouvements de la cage thoracique. Si ça bouge, c'est qu'elle respire. Attention, dans certains arrêts cardiaques, il peut y avoir des espèces de gasps qui ne sont des fausses respirations. Et puis, vous pouvez aussi entendre la respiration ou même la sentir. Si la personne ne respire pas et qu'elle est inconsciente, elle est donc en arrêt cardiaque. Inutile de vouloir chercher le pouls. Même pour des médecins chevronnés, c'est compliqué car parfois la tension est tellement basse qu'on pourra ne jamais sentir de pouls, même quand la personne est encore vivante.
Ouais,
exactement.
D'accord.
Donc évitez de penser à ça. Inconscience et ça ne respire pas.
C'était très clair, Jimmy. Avant de démarrer les gestes de premier secours, première chose à faire, donner l'alerte. Ça, c'est très important quand même.
Trois choses à retenir. Un, on appelle le 15 ou le 18. Et si on n'est pas seul, on demande aux autres d'appeler.
Comme ça, on peut attaquer le massage.
Exactement. Deuxième chose, c'est le massage. Et troisième chose, si on peut, c'est qu'on envoie quelqu'un chercher un défibrillateur. C'est les trois moyens indispensables à la survie d'un patient.
D'accord. Et ensuite, donc, le massage cardiaque, c'est pas évident à expliquer peut-être à la radio, mais vous allez faire, j'en suis sûr, très bien.
Alors, il faut absolument d'abord vous mettre en sécurité, parce qu'il faut éviter le suraccident. Ensuite, il faut que la personne soit absolument allongée sur une surface dure. S'il est sur un lit, il faut la mettre normalement par terre. Pour avoir un massage plus efficace, vous mettez à genoux contre la victime, sur le côté. Vous mettez les mains l'une sur l'autre, au milieu du thorax, entre les deux seins, en ayant ouvert la chemise évidemment, et les bras bien tendus. Vous appuyez de tout votre poids. Ce n'est pas les mains qui vont comprimer. Vraiment exactement, c'est tout le corps pour enfoncer avec des pressions fortes vos mains de 3 à 4 cm dans la poitrine, avec un rythme régulier. On considère qu'il faut faire ça aux alentours de 100 par minute, avec le rythme de la musique Staying Alive. Ça vous donne effectivement une ambiance. Et vous faites ça en continu, sans vous arrêter, en attendant que les secours arrivent. Et puis, vous relayez. Si vous n'êtes pas seul, au bout d'une ou deux minutes,
on
est épuisé. Et même les pompiers chevronnés se relaient, car c'est un acte extrêmement physique et difficile.
Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails du défibrillateur. On en fera peut-être un point une autre fois. Juste, Jimmy, on est d'accord, mieux vaut masser que de mal, même que de rien faire. Hein.
Une minute de gagner, c'est 10% d'espérance de vie en plus. Et donc à l'inverse, chaque minute perdue, eh bien c'est des cellules en moins et donc une mortalité plus importante. Je vous rappelle que le taux de survie est autour de 8% simplement en France. C'est que dans les pays où on a formé les gens aux gestes de premier secours et où on a des défibrillateurs, on a 4 à 5 fois plus de résultats. Donc il faut se former et il faut faire plutôt que d'observer.
Très bien. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils précieux.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va finir avec cette question de Michael. Il nous dit la chose suivante. Pour tout vous dire, j'ai eu un plan cul avec une personne malentendante et j'étais pas super à l'aise, mais le feeling est bien passé. J'aimerais le revoir. Comment je peux faire pour que la prochaine fois, je sois plus à l'aise sans forcément y prêter attention? Comment expliquer cette gêne, Catherine? Pourquoi est-ce que le fait qu'ils soient malentendants, ça change quoi finalement dans l'histoire?
Ça change qu'il faut des repères nouveaux, bien évidemment, puisqu'on se dit qu'on va devoir communiquer autrement que par les mots, surtout si c'est vraiment une surdité. Donc, il va falloir faire des gestes, il va falloir se découvrir autrement, ce qui veut dire qu'on enlève un canal de communication habituel de soi. Mais c'est simplement là la difficulté. Peut-être aussi l'idée que l'autre est fragilisé, même si il sait faire et vivre avec ce qu'il est. En tout cas, suffisamment fragilisé pour avoir peur, peut-être, d'une position plus dominante par les multiples capacités qui sont les siennes par rapport à l'autre.
Bah, vous avez raison, on a l'impression que finalement, étant donné qu'il est malentendant, ce serait quelqu'un de fragile et qui ne serait pas sur la même longueur d'onde, à savoir tous les deux d'accord pour un plan cul. Peut-être que c'est lui qui se fait des idées et qu'en fait, il s'en fiche complètement, peu importe la déficience, c'est un plan cul. Non
oui, ce d'autant plus que ça ouvre la possibilité justement de l'érotisation du corps, parce qu'on n'est pas obligé de se justifier, on n'est pas obligé de rentrer dans l'histoire de l'autre. Là, il va falloir se parler avec de la gestuelle. Et quand je dis se parler, c'est pas que pour dire des mots, c'est se parler corporellement. Et du coup, ça ouvre peut-être au contraire le champ des possibles, puisqu'on n'est pas limité par l'intellectualisation renvoyée par le verbe entre deux personnes.
Et Catherine, c'est vrai que bon, au début de la question, il nous parle justement d'un plan cul, mais il dit qu'il veut le revoir, mais qu'il n'est pas à l'aise. On sent quand même finalement ça dépasse. Il lui a bien plu, je crois, en fait. C'est ça qu'on peut en conclure, non ?
Oui, et peut-être que toute la difficulté, c'est accueillir le fait que quelqu'un différent de soi, ou handicapé sur un plan, puisse être un objet de désir aussi fort que quelqu'un qui serait exactement comme ça. C'est le rapport à soi, la représentation de l'extérieur. Est-ce que je peux aimer quelque chose qui pourrait être plutôt perçu comme de moindre valeur parce qu'il est handicapé, ce qui évidemment n'est pas le cas. Au contraire, je pense que plus les gens ont vécu des choses douloureuses, de devoir faire le deuil de quelque chose, ou peut-être d'ailleurs cette personne est-elle née comme ça, mais plus ils ont dû développer des aptitudes qui les rendent formidables. Donc c'est dommage de se priver de ces plus et de ne voir que les moins.
Est-ce que finalement, ce qui se trame en arrière-pensée ou en fond, et peut-être que c'est un préjugé qu'on a tous, c'est étant donné qu'on a une déficience, quelle qu'elle soit, elle peut être auditive, visuelle, peu importe, eh bien on serait déficient sexuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de ce rapport-là en disant bon, bah, il est peut-être un peu fragile, il est peut-être moins bon, alors que c'est peut-être un super coup. Enfin, il ou elle, on ne sait pas.
Apparemment, mais bon. Ça s'est quand même plutôt bien passé.
Mais bien sûr, c'est la déficience, d'abord, qui n'est pas concernée ? Ce n'est pas parce qu'on a tous nos sens pour la plupart d'entre nous que nous ne sommes pas concernés par des déficiences. Heureusement que ça s'est contrebalancé par des tas d'autres qualités. Donc, effectivement, ne nous limitons pas à ce qui est plus visible ou ce qui est annoncé de l'autre dans sa limite.
Il demande de l'aide pour savoir comment être peut-être moins gêné la prochaine fois, plus à l'aise. Il faut peut-être juste essayer de le connaître avant, quoi, et que ce soit plus justement résumé à un plan cul comme il le disait au départ. Ça aidera à être plus à l'aise de faire connaissance, en fait, finalement.
Bien sûr. Et puis, justement, plus la relation évolue, plus elle peut s'éloigner du plan cul. Du coup, ça va inviter au verbe, qui sera une difficulté parce qu'il fera se parler peut-être en se montrant les choses, ou comme les enfants. Il y a un truc merveilleux des enfants. Les enfants ne s'encombrent pas du langage qui n'est pas le même. Ils vont sur la plage, ils rencontrent un petit Allemand, un petit Russe, un petit Chinois. Ils parlent la langue de l'autre, pourtant ils ne la connaissent pas par les gestes, par les jeux, par prendre par la main, par accompagner corporellement. Que les adultes ont fondamentalement oublié, se sentent ridicules dès qu'ils font des gestes ou dès qu'ils miment des choses. Ben justement, c'est l'occasion de libérer tout ça pour une fluidité de relation.
Oui, un peu de body language, on parle
exactement.
Le langage du corps,
plus
peu importe la langue.
Jamais,
ça
reconnaît, plus
ça,
que
le
jamais.
Body language.
Allez, avec l'accent un peu catastrophique, mais surtout.
Mais c'était pas mal, non, j'aime bien.
Au tout début, ça ne semblait pas le déranger, qu'il était malentendant. Donc finalement, que ce soit avant ou après.
Au début, peut-être que c'était une curiosité avec toute l'ambivalence de la curiosité, mais finalement, chemin faisant, ça lui a plu. Donc.
Allez,
continuons.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. On se retrouve demain dans un instant. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Oh, alors, si vous saviez ce que Stéphane dit de vous hors antenne,
oh,
il est vraiment caustique. Ah, il est d'une causticité
redoutable. Oui, on essaye d'être caustique. Vous savez, aujourd'hui on a réuni les as de la pique.
Ah, d'accord.
Georges Feydeau avec le roi du vaudeville à la française. Roger de Bussy-Rabutin qui disait des horreurs sur la cour de Louis XIV. Et puis alors Mathieu. Il nous a dégoté. Mathieu, dites à Mélanie ce que vous avez dégoté.
Mais, tout simplement, en fait, moi j'ai regardé la cérémonie des Césars. C'était tellement chiant, je me suis dit, mais regardons plutôt la cérémonie des Golden Globes, présentée par Ricky Gervais, qui est un humoriste anglais passé aux États-Unis, qui est d'une drôlerie absolument totale. Alors il faudra écouter ma chronique et ensuite aller voir sa présentation des Golden Globes. C'était fabuleux. Et c'est la première fois que je fais découvrir un humoriste à Stéphane, donc ça me touche.
Ah oui. Bah, vous allez voir, c'est drôle et méchant.
Bon, eux aussi, ils ne sont pas drôles et méchants, ils sont piquants, mais on adore ça. Alors restez bien sur Europe 1.